Avant de décider de filmer l'usine de générateurs, nous avons visité une aciérie, une usine de tracteurs, un chantier naval, une usine de montres. 14 usines en tout. Ce n'était pas ce que nous voulions. Nous avons choisi celle-ci justement parce que c'est une usine ordinaire. Elle ne s'était pas particulièrement distinguée pendant la révolution culturelle. Elle n'est pas de celle qu'on cite en exemple. Dans l'usine, il y a un dispensaire central et dans chaque atelier, une infirmerie. Les médecins ne s'occupent pas seulement des accidents du travail, mais de tous les problèmes de santé des ouvriers et aussi de leurs familles. Un jour par semaine, médecins et infirmiers travaillent aux machines.
Vous avez quel âge ?
26 ans.
C'est votre premier enfant ?
Oui, c'est le premier.
Vous êtes marié depuis longtemps ?
Pas tout à fait 2 ans.
À quel moment vous arrêtez-vous de travailler ?
Dès le 6e mois, on a un travail plus léger. Par exemple, si on travaille autour, on peut être affecté au magasin de l'outillage. Pour l'accouchement, si on veut accoucher en ville, on peut rentrer à Shanghai quelques jours plus tôt. Le congé est de 56 jours, c'est ça? Et si l'accouchement est difficile, 77 jours. 70 jours. Si besoin, tu demandes au médecin une prolongation. Et il te l'accorde. Pendant l'allaitement, les mères travaillent 7 heures par jour. Une heure pour allaiter. Oui, une heure. On confie les bébés à la salle d'allaitement quand ils ont 56 jours.
Mais par rapport à ces jeunes Mao, c'était intéressant ce qu'ils disaient. C'était très intéressant. L'idée qu'il fallait changer les rapports sociaux, que Mao Tse-Tung faisait appel à l'homme dans ce qu'il avait de plus profond, lutter contre l'égoïsme, c'est la base de la société dans laquelle on vit, là, l'égoïsme. Donc ça nous parlait directement, vous voyez. En 72, quand on y était, c'était juste la période de servir le peuple, de lutter contre l'égoïsme, ce qu'on a filmé. On peut pas filmer une révolution en train de se faire parce qu'on sait pas tout. Il se passe une chose comme ça d'esprit de servir le peuple qui se développe. Ce serait bien qu'on aille dans des unités expérimentales, plus avancées que d'autres, qui montrent le chemin. Et à travers ça, nous allons montrer que les gens sont des individualités. Et nous allons les montrer dans leur vie quotidienne. Sans plus de prétentions, en essayant de répondre aux questions qui sont posées en Europe, en essayant de voir si elles sont réelles ou elles ne le sont pas. Et filmer le plus proche des gens possible, faire du cinéma direct, évidemment sans oublier le reste. Vous savez, quand vous êtes quelque part, vous voyez ce que vous voyez autour, vous ne voyez pas ce qu'il y a à 25 mètres plus loin. Par exemple, quand je revois la pharmacie aujourd'hui, au moment où ils montrent tous ces trucs pour la contraception, je me dis, si j'avais été maligne, j'aurais posé la question s'il y en a assez pour tout le monde. Je n'ai pas posé. Vous voyez ? Je n'ai pas toujours posé les questions que j'aurais dû. Mais je ne cherchais pas la petite bête. Sur le principe, il y avait la contraception. Est-ce qu'il y en avait pour tout le monde ? Est-ce que toutes les femmes étaient d'accord ? C'est un autre film. Ils étaient reconnus dans le quartier comme un magasin exemplaire, qui en faisait plus que les autres. Ils portaient les médicaments à domicile. Ils faisaient tous les gestes qu'on ne fait pas ici. Ça voulait dire une proximité plus grande. Et même s'il y avait de la triche, ils ne pouvaient pas tricher sur tout. C'est pour ça que c'était très, très important de s'installer dans un lieu, d'y rester longtemps avant de filmer, de se faire accepter, qu'ils oublient complètement la caméra, qu'ils nous acceptent, qu'ils nous aiment, qu'on donne de nous-mêmes avant de recevoir. C'est le cinéma. Il y avait une gentillesse, il y avait une hospitalité, il y avait une générosité extraordinaire. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter parce que ça paraît très naïf de ma part. Mais moi, j'ai vécu des choses tellement extraordinaires dans ce pays. C'est le pays qui a le mieux compris aussi la déportation. Chaque fois que des enfants regardaient mon numéro, que je leur racontais, ils parlaient de Nankin. les massacres de Nankin. Donc moi, j'ai jamais oublié la guerre, j'ai jamais oublié la colonisation qu'ils ont vécue. Donc c'est un peuple qui a beaucoup souffert, qui est très pauvre, qui est encore très pauvre, même si la côte Est est riche. Mais elle a toujours été riche, la côte Est. Mais l'intérieur de la Chine est loin d'être... Je pense qu'on peut encore trouver des gens comme ça. Mais effectivement, il y a une dureté qui se développe maintenant à travers la nécessité de l'argent. Dans mon imaginaire, quand je pense le meilleur, je pense que c'est ce que Mao Tse-tung voulait éviter. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. On le saura un jour. Mais je pense que tous les livres qui sortent sur Mao Tse-tung, baisant, ayant des maîtresses et tout, on peut faire dire la même chose de d'autres chefs d'État en Europe. Et donc ça, c'est pas des exemples pour moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est les Chinois. Ils sont comme ma mère. Avec pas beaucoup d'argent, ils font de la cuisine. Moi, je viens de la cuisine de l'émigration polonaise. On perdait rien. Exactement. Et moi, ce que j'aime chez les Chinois, c'est comme chez ma mère, on mangeait les pâtes de canard. On les mangeait pas de la même manière, mais on les mangeait. On mangeait tout. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié de ce peuple, de sa capacité à tout utiliser avec pas grand-chose. Mais à faire des plats exquis comme ma mère faisait. Chacun a un chemin. C'est sans doute le seul chemin que je pouvais prendre après les camps, avec la naïveté que j'avais quand j'en suis sortie, malgré tout ce que j'avais vu autour de moi. Mais avec le côté infantile qui était en moi, j'ai l'âge de mes traumatismes. J'ai 15 ans. Et voilà. Et ça me convient parfaitement. Et si on sait en faire quelque chose, c'est bien. Il faut avoir eu beaucoup de doutes à l'intérieur de soi-même. Et aussi beaucoup d'expériences de la vie elle-même, des cycles de vie accomplis, de la complexité de la vie en général, et aussi du bonheur de vivre.
À l'époque où vous retournez en Chine, en 71-72, le mouvement maoïste en France est moribond, il disparaît, c'est un mouvement qui est assez éphémère. Vous continuez sur ce chemin
Moi, j'étais pas vraiment dans les mouvements maoïstes, j'ai jamais été ni Yoris, on n'a jamais été. On était proches, ça m'est arrivé qu'on me demandait de loger quelqu'un, de trouver un endroit pour loger quelqu'un, ou des choses comme ça, mais moi, j'ai jamais été une militante. Je me souviens d'une époque où la gauche prolétarienne nous avait demandé, je dirais pas de nom, hein, nous avait demandé, si vous allez en Chine, ce serait bien que vous demandiez à Chouinla qu'est-ce qu'il pense des étudiants français, de ce qui se passe en France. Moi, j'avais effectivement posé la question à Chouinla. Et il m'avait répondu cette phrase étonnante, « Vous leur direz qu'il ferait mieux de retourner à l'école et arrêter leur cinéma. » Et quand j'étais revenu avec cette réponse, ce qui était très comique pour moi, c'est que la réaction avait été « Oh, il comprend pas ce qui se passe ici. » Oh, il comprenait très bien. C'est amusant. Hein. Donc ça vous donne du recul à vous-même. Quand en 1975, on est retourné en Chine pour quelques prises de vue additionnelles, pour finir nos films, parce qu'il y en avait 12, hein, et qu'on avait apporté avec nous 5-6 films pour montrer aux gens qu'on avait filmé et pas au pouvoir, et qu'on voulait aller dans les différentes unités, et que c'était la bande des quatre qui avait le pouvoir, enfin, c'est Qianxing, Yao Wanyang, Chen Qingchao... et qu'ils nous ont empêchés de le faire, et qu'ils ont organisé des réunions en faisant venir des gens des différentes provinces, qui n'étaient pas forcément les bons, et qui étaient quelquefois les plus sectaires, et qui a eu cette projection sur nos films, avec une réunion après qui a duré des jours et des jours, Oui, où le représentant de Kyung-sing, le directeur du cinéma, qui était un homme d'un sectarisme total, nous critiquait, voulait qu'on coupe ceci, qu'on coupe cela. Et que nous, on disait non, s'il y a une erreur historique, on veut bien la corriger, mais on ne coupera rien. Et que moi, je me suis battu comme un chien, et Yoris, et notre opérateur avec nous, et qu'on était dans une phase en accusation. Et que Chuen Lai nous a fait dire, il était malade, il était en train de mourir. Par l'intermédiaire de Liao Shenshe, qui devait devenir président de la République et qui est mort 2 jours avant, après la chute de la bande des quatre. Et ça, c'était une terrible pour la Chine, parce que c'était un homme admirable. Et que Chuen Lai nous a dit, rentrez chez vous, sortez le plus vite le film et ne revenez pas tant qu'ils sont là. Et que quand on est parti, il y avait 40 personnes qui pleuraient à l'aéroport, en sachant plus que nous de ce qui se passait. Mais ne nous le disant pas. Mais nous, on le sentait. On n'avait pas besoin qu'on nous le dise. On avait tout compris, c'était pas la peine. Et qu'on est rentré à Paris, qu'on était accusé d'être membre de la bande des quatre, ce qui était une imbécilité totale. Qu'on a sorti ces films qui ont eu un succès considérable. 300 000 entrées à Paris. Vous vous rendez compte ce que c'est? 12 documentaires à sortir en même temps. Et que c'était le moment où, effectivement, la gauche prolétarienne se délitait. Pour des bonnes raisons. Pour ne pas vouloir entrer dans la lutte armée. Et que nous, on était dans cet avion, désespérés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé publiquement à la sortie des films? Et que Yoris et moi, on a décidé non. Parce que c'était encore des arguments contre la Chine qui ne seraient pas compris. Mais à mon avis, on a fait une erreur. Mais en même temps, notre souci d'honnêteté était tellement fort qu'on ne pouvait pas le faire.
Quand aujourd'hui, ces gens, ou même très peu de temps après, ces gens ont fait leur mea culpa, aujourd'hui renient un petit peu leur fascination pour la Chine, qu'est-ce que ça appelle comme réaction de votre part?
Je pense que on en reparlera. On en reparlera, hein. Parce qu'il se passe des choses intéressantes en Chine quand même. Bon, il y a tous les voyous, la jungle actuelle, le capitalisme sauvage tel qu'il a existé au 19e chez nous, faire travailler les mômes, les exploiter à mort, les compagnies privées qui en profitent, les Européens qui installent les usines qui en profitent, il y a tout ça, c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres choses. Moi, je voudrais savoir ce que sont devenus les dizaines de milliers de techniciens formés juste à la veille de la révolution culturelle, qui sont partis après dans des usines, en province, à droite, à gauche, qui n'ont pas participé à la révolution culturelle, mais qui ont maintenu les structures. Je voudrais bien savoir où ils sont ceux-là en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement... Les gens n'imaginent pas la vastitude de ce pays. Les sentiments que j'ai eus en Chine, je les ai eus que dans un seul pays au monde, c'est l'Amérique. La grandeur des lieux. La disproportion des ponts. La disproportion même des objets, des œuvres hydrauliques, tout ce que... Tout. C'est un pays de... Nous, on est un petit pays ici.
Alors pour finir, si je vous demandais qu'est-ce que cette révolution culturelle a été pour vous d'un point de vue cinématographique et puis d'un point de vue idéologique et d'un point de vue personnel?
Elle a été sans aucun doute un grand moment de ma vie. Avec un grand sentiment de liberté dans les films que nous faisions. En sachant jusqu'où on ne pouvait pas aller. Mais on nous a laissé filmer un procès. Qu'on n'a pas monté parce que c'était pas intéressant. Là où on a eu des ennuis, c'est que c'est la bande des quatre qui sont arrivés et nous ont empêchés de filmer. On cherchait pas à faire le mal, à dire le mal. Ça veut pas dire que le mal, il n'était pas là. On essayait de montrer qu'il y avait une société qui essayait de fonctionner autrement. Est-ce qu'on était manipulé? Est-ce qu'on se trompait? Est-ce que c'était de la manipulation à l'échelle d'un État? Il faut attendre la réponse. C'est les Chinois qui peuvent la donner. Et personne d'autre. Et si les Chinois s'agitent pas, parce que comme ils disent, un intellectuel chinois, c'est un roseau. Mais pourquoi c'est un roseau? Parce qu'il sait se plier. Et ben ça prendra beaucoup d'années. Mon rêve, ce serait de pouvoir reprendre peut-être un épisode de cette série des Yukong et retourner dans un lieu précis, d'essayer de retrouver les gens de cette époque, ou à la campagne, ou dans une ville, je sais pas, il faut réfléchir. Mais il faut être libre. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai l'appui que j'avais? J'ai d'autres appuis. Il y a d'autres appuis maintenant là-bas. J'aimerais beaucoup le faire. On verra bien.
Voilà donc pour cet entretien inédit que Marceline Loridan Evans, disparue cette semaine, avait accordé à Alain Lefkovitch en 2006 pour La Fabrique de l'Histoire.